VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique du Nord. En Tunisie, un des deux candidats au second tour de la présidentielle, Nabil Karoui, actuellement incarcéré pour fraude fiscale et blanchiment d'argent, a déposé un recours en justice pour demander un report de ce scrutin prévu le 13 octobre. La justice tunisienne confirme avoir reçu sa requête mardi. Les précisions de Jacques Aristide.
Le recours a été déposé auprès du tribunal administratif qui n'a pas indiqué dans quel délai il pourrait y répondre. Pour Maître Nazi Soué, l'un des avocats du candidat Karoui, ce renvoi doit avoir lieu jusqu'à ce que son client soit libéré pour faire campagne. Le recours a fait valoir que l'égalité des chances n'est pas respectée entre les deux candidats. Nabil Karoui, un homme d'affaires dont le parti fondé il y a 6 mois, serait arrivé second aux législatives de dimanche, d'après plusieurs sondage, est en prison depuis le 23 août dernier dans le cadre d'une enquête pour blanchiment. L'instance chargée des élections et de nombreux dirigeants politiques et des observateurs internationaux avaient déjà appelé à ce que Nabil Karoui puisse faire campagne de façon équitable. Le premier finaliste de la présidentielle, l'universitaire Kais Saïd, a déclaré samedi dernier qu'il cessait de faire campagne afin de respecter l'égalité des chances avec son adversaire en prison.
Les violences dans le Sahel maintenant, où la lutte contre les djihadistes et les affrontements intercommunautaires ont déplacé des centaines de milliers de personnes, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Nigeria. Exemple de cette vague de déplacement, Kongoussi, au Burkina Faso, le chef-lieu de la province du Bam, dans le centre du pays. Cette localité située à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou accueille plus de 45 000 déplacés qui ont fui les exactions des hommes armés dans les villages et les campagnes. Ces déplacés se débattent dans de sérieuses difficultés. Notre correspondant Lamine Traoré s'est rendu sur place. Son reportage à Kongoussi.
Amidou Guigma, 48 ans, est agriculteur à Zimtenga, 25 km de Kongoussi. Il a fui fin septembre à cause de l'insécurité et du terrorisme avec toute sa famille, au moins une quarantaine de membres.
J'ai fui avec toute ma famille.
Amidou Guigma, déplacé.
Mon papa, mes 4 vieilles, puis le papa a 4 femmes. Moi j'ai 2 femmes et j'ai mes petits frères aussi qui ont des femmes. La famille tourne autour d'une quarantaine de personnes que nous sommes venus avec ici.
Notre déplacé vit dans une zone défavorisée de Kongoussi. Pas d'eau potable ni d'électricité. La vie ici n'est donc pas facile. Ce matin, il est venu chercher des vivres sur place. Mais il faut s'aligner sous un soleil de plomb. Finalement, il repartira bredouille. Il y a rupture. Ousseni Kabore, directeur provincial de l'action humanitaire.
À ce jour, nous avons enregistré 45 472 personnes déplacées internes. Et nous avons pu toucher 2094 ménages qui ont bénéficié des vivres.
C'est pas conséquent quoi, puisque bon, en tout cas c'est un geste qu'ils font.
Amidou Guigma.
Ça ne suffit pas. Vu le nombre de familles qu'on a, et vu les quantités qu'ils donnent, en tout cas si ça perdure, bon, vraiment, on n'arrivera pas à s'en sortir.
Amidou ne sait pas si ses enfants iront cette année à l'école.
J'ai au moins 6 enfants qui partent à l'école. Mais vraiment, leur avenir vraiment est hypothéqué. On n'a plus d'école. Toutes les écoles sont fermées. On a fui, on est là. On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas quoi dire.
Le père de famille veut regagner sa localité.
Sincèrement dit, ce n'est pas facile. Étant déplacé, vraiment, ce qui nous manque, c'est notre village, nos récoltes, la nourriture.
Comme Amidou Guigma, ils sont plusieurs milliers de déplacés qu'on retrouve ici dans les différents quartiers de Kongoussi. Ils n'ont qu'un seul souhait, que la paix revienne dans leurs localités respectives, afin qu'ils y retournent, et ce, avec l'aide du gouvernement. Lamine Traoré, Kongoussi, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ebola en République démocratique du Congo. 3 laboratoires de dépistage du virus Ebola, affrétés par les fondations Mérieux et Presence, quittent la France ce mercredi à destination de la RDC. plus précisément Goma, chef-lieu du Nord Kivu, province de l'Est du pays, qui est l'épicentre de l'épidémie de fièvre hémorragique en cours. Ces laboratoires vont renforcer les mesures sur le terrain pour contenir la maladie, les précisions d'Irénée Herman Ongo.
Les deux fondations ont affrété un avion Antonov 124 qui transportera jusqu'à Goma deux laboratoires conteneurs prêts à l'emploi, un de type P3 et l'autre de type P2 et un laboratoire mobile installé dans un véhicule 4x4 ainsi qu'un conteneur frigorifique. C'est un enjeu de santé publique, a rappelé le fondateur du groupe pharmaceutique du même nom, Alain Mérieux, qui dit avoir répondu à une demande officielle du gouvernement par la personne du professeur Mouyembe chargé de la lutte contre Ebola. Ces laboratoires vont apporter une sécurité biologique beaucoup plus grande, a insisté M. Mérieux, rappelant que la RDC est un pays immense où le seul laboratoire P3 est à Kinshasa. Ces laboratoires conteneurs pourront ainsi diagnostiquer entre 180 et 200 prélèvements par jour, a assuré le directeur diagnostic et système de la Fondation Mérieux, le Dr François-Xavier Babin. L'Ebola a fait plus de 2100 morts en RDC depuis la déclaration officielle de l'épidémie. Le 1er août 2018.
Au Burundi voisin, le régime du président Pierre Nkurunziza a montré pour la première fois depuis le début de la crise en avril 2015 quelques signes d'ouverture. D'après l'AFP, Bujumbura a commencé à discuter dans la plus grande discrétion avec la plateforme d'opposition Sénared, laquelle est affaiblie par une vague de défection. Après avoir refusé avec persistance pendant 4 ans de s'asseoir à la même table que le Sénared, même sous l'égide de la communauté internationale, le pouvoir burundais a accueilli samedi dernier le secrétaire exécutif de ce mouvement qui rassemble des opposants exilés en raison de la crise née de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé. Toujours selon l'AFP, une délégation du Sénared a aussi rencontré à Nairobi. Au Kenya, une délégation du pouvoir burundais dirigée par l'ancien ministre de l'Intérieur Edouard Nduwimana, un proche du président Nkurunziza, le 30 août et le 1er septembre. Violence au Malawi, petit état enclavé entre la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie en Afrique australe. Un policier a été lapidé à mort mardi dans une localité à l'ouest de la capitale lors d'affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants proches de l'opposition. Ces derniers tentaient d'empêcher la tenue d'une réunion publique du président Peter Mutharika. Les détails avec Bagasi Koura.
Les violences se sont produites dans la ville de Musumbwe, à l'ouest de la capitale Lilongwe, rapporte le porte-parole de la police James Kadadzera. Le policier Ousmane Imedi a été lapidé à mort, a-t-il dit. C'est le deuxième policier tué depuis le début des manifestations au Malawi. La police a usé de gaz lacrymogène pour disperser des protestataires qui bloquaient une route pour empêcher des partisans du chef de l'État de se rendre à son rassemblement prévu à Lilongwe. Les manifestants ont riposté par des jets de pierre et ont tué un policier. La ville de Musumbwe est l'un des bastions de l'opposition qui dénonce la réélection de Peter Mutharika en mai dernier. Il a été crédité de 38,57% des suffrages devant son adversaire Lazarus Chakwera, 35,41% des voix. L'opposition a déposé une requête en annulation du scrutin auprès de la justice qui doit se prononcer prochainement. Il y a 2 semaines, un opposant malawite a trouvé la mort en garde à vue à Karunga, une ville du Nord. Lors de sa réunion publique hier, la première depuis sa réélection, le président malawite a appelé à la fin des violences.
Politique aux États-Unis, pour terminer, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle refusait de coopérer à l'enquête en cours au Congrès à Washington en vue d'une éventuelle procédure de destitution du président Donald Trump. Argument central de l'exécutif américain, les investigations menées par les élus démocrates de la Chambre des représentants sur l'affaire ukrainienne ne sont ni légitimes ni impartiales. La réaction de la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, ne s'est pas fait attendre. La présidente de la Chambre des représentants a dénoncé dans un communiqué ce qu'elle a qualifié de « refus » qui n'est que la dernière tentative de la Maison-Blanche de camoufler sa trahison de la démocratie américaine. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.